Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Je suis Paul Citron, urbaniste, coproducteur de l'émission avec Dominique Alba, architecte et urbaniste. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un des acteurs du Grand Paris, aux premières loges de la croissance actuelle de la métropole.
Bougre d'imbécile, qui veut raconter aux autres le monde des autres alors que tu n'es même pas fichu de te raconter à toi-même ton monde à toi. Tu peux toujours prendre l'air compétent et professionnel pour annoncer qu'à Shanghai, il y a 2 mètres carrés de logement par habitant, mais que sais-tu de la manière dont on vit à une demi-heure des tours de Notre-Dame ? Tu te moques de tous ces gens qui vont faire un petit tour en Chine et qui en rapportent un livre, mais toi, que serais-tu capable de rapporter de la Courneuve ou de Saint-Ouen-sur-Seine, où mènent les métros que tu prends tous les jours dans le pays où tu vis ? Toi qui, en bon français, parles tant de tout et de rien, est-ce que tu es jamais descendu rien que pour voir, à Sevran-Bodot, ou au Baconnet, ou à Mairie de Saint-Ouen, des stations où tu passes si souvent depuis des années ? Extrait d'un ouvrage de François Maspero, Les passagers du Roissy Express aux éditions du Seuil.
Alors, pour parler avec nous de ces territoires périphériques, parfois absents des radars, mais qui donnent à la métropole sa véritable envergure, nous avons le plaisir d'accueillir Karim Bouamran. Karim Bouamran, bonjour.
Bonjour. Bonjour Dominique.
Alors, donc, vous êtes concerné à plusieurs titres par le Grand Paris, puisque vous êtes à la fois maire de Saint-Ouen-sur-Seine, ville de banlieue située en première couronne, directement au nord de la capitale, et président du conseil de surveillance de la SGP, donc la société des grands projets, qui construit le métro du Grand Paris Express. Alors, première question, on voulait d'abord vous commencer l'émission en vous demandant à quoi un maire passe ses journées entre justement la gestion d'une ville de 50 000 habitants, les projets de reconversion urbaine en cours et vos responsabilités métropolitaines.
Je suis aussi vice-président du département en charge de la culture.
Oh pardon, excusez-nous monsieur.
Non,
pas du tout. Cette casquette.
Non, aucun problème. C'est, qui me prend plus de temps ou autant de temps que le président de la SGP. Ce qui est intéressant... quand vous avez ces fonctions avec plusieurs strates, sur le plan territorial et sur le plan politique, c'est toujours garder l'objectif qui est votre qui donne un sens à votre vie, à savoir pourquoi vous levez le matin et pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes dicté, est-ce que c'est les mandats qui dictent votre vision, ou est-ce que c'est les visions, la vision que vous avez pour votre pays, pour vos territoires, qui fait que vous êtes l'architecte de votre vie. Et moi, mon driver, c'est tout simplement améliorer la vie des gens. C'est aussi simple que ça. Et après, le reste, c'est des moyens. Je le fais en tant que maire, je le fais en tant que VP au département, je le fais en tant que militant, je le fais en tant que président du mouvement La France humaine est forte. Voilà. Après, ça se décline. Je le fais sur le plan de la culture, de la musique, du sport, de l'urbain. Mais surtout, garder cette vision, ce driver. C'est ça qui est le plus important. Donc, comment j'articule mes journées? C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que la journée N-1, la journée 1 et la journée N+1, c'est jamais la même. Mais il y a toujours le même, toujours garder le même énergie, le même enthousiasme, la même passion, la même sincérité et être aligné. C'est ça le plus important.
Mais les derniers mois, ou la dernière année, je ne sais pas si on peut parler de poussée de croissance du Grand Paris, mais en tout cas, on peut parler de poussée de croissance de Karim Bouamran. Est-ce que c'est cette vision et cette attitude qui font que vous avez été en couverture du New York Times ?
New York Times a été symptomatique et symbolique de ma vie. C'est-à-dire que, sur le plan professionnel, j'ai pu réussir parce que j'avais performé aux États-Unis. Parce qu'arrivé à un moment, j'avais l'impression qu'en France, ma motivation, mes compétences et ce que je faisais n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Et là, avec les collègues, on s'était dit, au bout de 4 ans et demi, on est en train de faire quelque chose d'exceptionnel à Saint-Ouen. On voit très concrètement comment on transforme notre territoire grâce à une vision qui s'appelle le progrès partagé, l'espoir partagé, l'espérance partagée. On se rendait compte que notre territoire a une vision de la pauvreté partagée ou du progrès privatisé, c'était substitué cette vision du progrès partagé de façon très concrète, hein, avec un ANRU qui est lancé, avec un PRIR qui est lancé.
Un PRIR, qu'est-ce que c'est?
C'est un ANRU régional, pardon. Donc très concrètement, améliorer la vie des gens qui vivent dans le logement social pour avoir 100% de logement digne, au même titre que ceux qui venaient, qui sont propriétaires. La première source d'égalité, c'est le logement. On le voit même sur le plan éducatif, sur le plan du périscolaire. Et on n'avait pas la reconnaissance à juste titre. Et là, on s'était dit, on va faire une conférence de presse avec tout le monde. Il y a le New York Times, il y avait le Guardian, il y avait la Tribune de Genève, il y avait l'Herald, Die Welt, il y avait Der Spiegel, il y avait El País. Ils se sont rendus compte, il se passe quelque chose à Saint-Ouen. Et au début de mandat, j'avais dit que Saint-Ouen va être centre de la métropole et que Paris va être la banlieue de Saint-Ouen, de façon un peu provocatrice, et c'est ce qui se passe. Là, aujourd'hui, Saint-Ouen est cité en exemple. Dans le poème que vous avez évoqué, malheureusement pour Sevran ou malheureusement pour les autres gares ou la Courneuve, on a eu Saint-Ouen et a mis une accélération en termes de qualité de vie. Là aujourd'hui, on est sur l'aspect de sécurité, sur l'aspect de démocratisation de l'excellence, sur l'aspect du beau, parce qu'on a réussi à mettre l'individu au centre de notre vision et mettre de côté les postures politiques qui phagocytent la vie politique.
Alors cette accélération, elle provient à la fois donc de politiques publiques qui sont menées au niveau local depuis des années, et également de politiques d'investissements nationaux. Je pense à la prolongation de la ligne 14. Je pense à l'arrivée du, alors c'est pas un investissement national, mais à l'arrivée de la région Île-de-France à Saint-Ouen. Je pense aussi au village des athlètes. Est-ce que ces Jeux Olympiques et Paralympiques et cette prolongation de la ligne 14, finalement, ils viennent ouvrir une nouvelle page de l'histoire du territoire ?
Oui, tout à fait. La 14, les JO, l'arrivée de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et le campus hospitalier étaient des éléments qui étaient déjà... Le campus hospitalier, moi j'avais joué un rôle direct avec à l'époque...
Le campus hospitalier, vous pouvez peut-être préciser pour les auditeurs.
On va avoir le plus grand campus hospitalier, Saint-Ouen-Paris-Nord, Bichat va partiellement fermer, Beaujon... Fermé, ce sont deux grands hôpitaux dans le nord de Paris, et ils vont fermer, ils vont se regrouper à Saint-Ouen, donc on va avoir 12 000 étudiants. Donc ça veut dire que Saint-Ouen, dans une ville de, on est 60 000 maintenant, 60 000 habitants, on a 40% de la population qui a moins de 30 ans. C'est devenu une ville avec l'arrivée d'Audencia, qui est une grande école de commerce. On a un Supmeca, on a une école spécifique pour la promotion de l'IA et du cryptage, du décodage, mais uniquement pour les femmes. Je vois derrière, moi aussi, je crois que la sororité est une forme de résistance au patriarcat. Donc moi aussi, je te crois, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Donc je le crois aussi.
Moine qui décrit aux auditeurs le studio de Cause Commune.
Super studio de Cause Commune où je me sens bien. Je suis dans mon élément. Et pour cinématographique, politique, culturel. Et donc du coup, ça, c'était des éléments que vous avez décrits, projets structurants. Et soit vous les laissez et vous subissez. Et moi, je les ai utilisés comme des éléments accélérateurs. Comme des accélérateurs de particules pour pouvoir accélérer tout ce que j'avais à l'esprit pour améliorer concrètement la vie des gens, donc rénovation du centre, mettre du beau, régler les sujets de l'insécurité, mettre en avant la politique sportive, faire venir l'académie Tony Parker, faire venir Thierry Marx.
On va revenir, pardon.
Okay. Mais en tout cas, oui, il y a des éléments exogènes que j'ai transformés. Ça aurait pu être des signaux faibles, hein, parce que les JO, souvenez-vous les débats qu'il y avait il y a 3 ans. Il y avait un côté anti-JO. Le campus hospitalier, il n'y avait pas beaucoup de partisans. La ligne 14, il y avait beaucoup de réfractaires parce qu'on ne la voyait pas arriver. Et la DGSI, pour beaucoup, c'était un problème. Donc j'ai transformé ça en signal fort.
Alors on va revenir un tout petit peu en arrière.
Ouais.
Saint-Ouen, banlieue rouge, ancienne ville communiste. Mmh. Vous êtes vous-même un ancien élu communiste, je crois. Mmh. Vous décrivez ces grandes avancées. On aurait pu aussi parler des docks de Saint-Ouen, du quartier des docks, qui a été installé et développé au début des années 2000, hein, qui est quand même un quartier d'une centaine d'hectares. C'est quand même quelque chose de très, très important dans une commune qui fait que 4 km². C'est bien ça.
Tout à fait.
Donc, qu'est-ce qui reste de son histoire populaire et ouvrière quand vous décrivez ces gros morceaux? On se dit, mais comment on résiste à des gros morceaux? Comment c'est pas l'explosion? Et quel avenir pour ces classes populaires, évidemment plus largement dans le Grand Paris, mais on reviendra au Grand Paris après. Ouais. On va rester encore un peu sur Saint-Ouen. Là, Saint-Ouen, c'est populaire ou c'est en voie de boboïsation?
Non, c'est une vraie question. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on met dans les... Et vous connaissez Dominique, parce que vous avez parfaitement intellectualisé ces questions-là depuis des années. La question, c'est toute une question politique. Soit derrière, on considère et on fait fi de la réalité. On considère que l'arrivée d'une nouvelle population va arriver à terme au remplacement des plus pauvres, ou soit on se dit, et là on a une réflexion politique plus fine, on n'oppose pas les gens, et on se dit qui vient à Saint-Ouen. Nous on s'est rendu compte, et c'est la chose la plus intelligente qu'on a mis sur la table ces 5 dernières années, ceux qui viennent à Saint-Ouen, c'est exactement la même ADN sociologique et politique et historique que ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Je m'explique. Ceux qui vivent dans les quartiers populaires, leurs enfants seront probablement, comme moi, la première génération de diplômés. Ceux qui viennent à Saint-Ouen sont la première ou, maximum, la deuxième génération de diplômés. Il y a cette filiation. À Saint-Ouen, les nouveaux arrivants, c'est pour ça que j'aime pas le mot bobo, ils ont toutes et tous un grand-père ou une grand-mère ouvrière, ouvrier, agricultrice, agriculteur, qui comptait pour qui les fins de mois étaient compliquées parce que on était en région, en province, on a dû galérer pour aller à l'école parce qu'il fallait prendre la navette, etc. Ça, c'est ça l'histoire. Et nous, on les a pas opposés. On a fait en sorte que ce soit par rapport à la culture, par rapport au logement, par rapport au sport et par rapport à l'école, que ce métissage soit fécond et qu'on montre qu'il y ait, et ça, je l'utilise souvent, cause commune. Mmh. Et c'est pas du tout un effet gimmick, parce que c'est le mot, vous vérifierez, que j'utilise souvent, cause commune. Et Saint-Ouen, c'est ce qui fait la différence, on fait cause commune. Et ça passe par le logement.
Cet extrait sera repris et amplifié sur les ondes.
Ah non, mais j'adore ce mot, cause commune.
Par contre, je voulais vous relancer là-dessus, parce que même sans opposer les gens, comment on fait pour maintenir des gens qui habitent là depuis des années, à donc des prix immobiliers qui sont les leurs, et dont on sait que forcément, l'arrivée de nouvelles populations, l'arrivée du métro, etc. Si on laisse faire le marché, ça fait monter les prix. Comment faire? Enfin, le phénomène de gentrification, c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive naturellement. Donc, comment est-ce qu'on fait lorsque justement on a cette histoire d'une banlieue populaire et lorsqu'on a les objectifs politiques que vous énoncez? Comment on fait pour finalement maintenir cette gentrification?
Le banlieue populaire, ça pas dire concentration de la pauvreté, et gentrification, ça ne doit pas se traduire par chasser toutes celles et ceux qui sont pauvres ou classe moyenne.
Exactement, donc comment on fait pour maintenir les prix de l'immobilier accessibles?
Donc on a plusieurs outils. Le premier, déjà la première volonté politique, c'est de faire en sorte que ceux qui vivent dans du logement social aient un logement social décent. Et là, il y a des dispositifs nationaux qui existent. L'Agence nationale de rénovation urbaine a un dispositif, l'ANRU, il y a sur le plan régional des dispositifs qui s'appellent le PRIR, il y a des plans de rénovation qui existent, donc c'est comment derrière on arrive tout de suite à lancer un plan concret, mais concret, de rénovation pour leur montrer que quand tu viens de la cité d'où je suis originaire, tu auras exactement la même qualité de logement en termes de réhabilitation, en termes de végétalisation, en termes de qualité d'espace public, en termes d'enjeux thermiques que les nouvelles constructions. Donc déjà ça, on réduit ce gap. Ensuite, il y a comment on arrive à freiner l'augmentation des prix. Ceux qui vous disent que le maire a la capacité à éviter une augmentation des prix au mètre carré lorsque vous avez une attractivité extrêmement importante comme la nôtre, parce que ça nous donne la possibilité d'avoir une entrée fiscale. Je vous rappelle que Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation, donc du coup les seules marges de manœuvre fiscales pour les collectivités territoriales et pour les maires, ce sont les personnes qui viennent et qui sont propriétaires avec la taxe, les taxes foncières. Donc comment on fait? On a plusieurs dispositifs, plusieurs leviers sur l'accès à la propriété. On a une charte promoteur où on met la pression sur les promoteurs de mettre un niveau de logements sociaux, type PLAI, PLS ou de l'intermédiaire. Pardonnez-moi si jamais j'ai été un tout petit peu technique, mais en gros c'est une stratification sur le logement social. C'est des types de logements sociaux, parce que logements sociaux, que les auditeurs nous entendent bien, ça veut pas dire mettre des pauvres. Aujourd'hui dans le logement social, vous avez des infirmières, vous avez des cadres moyens, vous avez des enseignantes et des enseignants qui sont à 2000 euros par mois.
70% des Français sont éligibles au logement social.
Voilà, donc
c'est encore plus exactement.
Donc ça c'est le deuxième point. Puis le troisième point, c'est dispositifs techniques type bail réel solidaire ou l'accès à la propriété. On arrive à déconnecter le bâti du foncier qui nous donne la possibilité de freiner l'augmentation. Après, c'est trouver le bon équilibre. C'est si jamais vous avez une ville où elle est à 3000 euros le mètre carré, ça signifie que vous avez 80% de logements sociaux, vous avez un 75% de taux de pauvreté, et vous avez un délabrement des services publics, et vous avez un éloignement, et vous avez des entreprises qui viennent de moins en moins, et le rapprochement domicile-travail, et altérée.
Alors, on reviendra sur la question de l'équilibre avec le Grand Paris. Je voudrais juste rester sur ce que vous venez d'énoncer, donc une sorte de liste comme ça d'outils techniques. Quand on parle de ville, tout le monde dit « ça prend trop de temps ». Quand on vous écoute, on a l'impression qu'en fait non, qu'on peut faire vite, que en gros vous jouez avec tout ça et que c'est pas vrai. C'est comme si vous étiez presque l'inverse de ce qu'on entend tous les jours quand il s'agit de ville, c'est que l'ANRU c'est trop long, monter les financements c'est trop long, etc., etc. Et ce qui fait qu'on est toujours en décalage entre la politique et la vision que vous évoquez et que vous, je dirais, vous exprimez ce que vous êtes en tant qu'élu avec un mandat qui a une durée limitée, et puis cette réalité de la ville où il y a toute une technostructure ou un technosystème qui vous empêche d'aller vite. On a l'impression que c'est quoi la méthode ? Alors, on reviendra sur la sécurité, toutes ces choses que vous avez faites, mais est-ce qu'il y a une méthode aussi, Karim Boisbrand, sur cette question de la ville, de ces outils ?
J'ai été inspiré énormément de ce que j'ai pu faire dans le privé. Il n'y a pas que des choses à fustiger dans le privé. Et ce qui est important dans le privé, c'est quand on est dans une activité hyper mercantiliste, c'est, comme disent les Américains, « time is essence ». C'est-à-dire que la gestion du temps est hyper importante. Et moi, j'ai pris les mêmes techniques que j'avais quand je gérais des startups pour l'intérêt général, en me disant comment le temps doit être géré à l'optimum pour rendre les gens heureux et pour améliorer leur vie au regard des dispositifs qui existent.
Est-ce que vous avez des exemples de comment est-ce qu'on fait pour
bien sûr.
Non, mais
gérer
aller plus
le
vite.
Temps
non, mais aller plus vite, non mais très bien. Non, mais par exemple, un truc tout bête. Souvent, quand vous êtes dans des, quand vous êtes maire ou quand vous êtes en responsabilité, on vous fait des réunions point d'étape. Tout ça, ça sert à rien. Vous avez des personnes extrêmement compétentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui, quoi, comment, où. Mes patrons, c'est la population. Donc, je dois rendre compte à la population. Et ensuite, mon boulot, c'est de voir tout en haut pour qu'ils aient la capacité à aller relever tous les dispositifs. Et par rapport à la question de Dominique qui était comment on gère cela, parce que le rapport avec le temps, parce qu'il faut aller vite. Mm-hmm. Bien sûr, vous avez beau être bien organisé, hyper méthodique, c'est pas ça qui va nous faire un ANRU vite. C'est comment chaque jour, mais vraiment chaque jour, les gens se rendent compte que leur vie s'améliore. Et ça, c'est un mot qui a pas de prix. C'est l'espoir. Il y a encore une étude ce matin qui est sortie sur la désaffection des Françaises et des Français face aux politiques. Et ce qui ressort, c'est le désespoir, la désespérance. Et c'est ça qui est la clé. C'est que derrière, les gens se disent, vous savez quoi, à Saint-Ouen, plus le temps avance, plus ma vie s'améliore. Et donc, le niveau d'exigence augmente parce que j'ai une pression. Les gens oublient, hein. Mais c'est bien. Ils sont pas en train de vous dire, c'est super ce que vous avez fait. Ils disent, c'est bien ce que vous avez fait. Poursuivons.
C'est ça, parce qu'il y a comment aller plus vite, mais il y a surtout comment est-ce que, chemin faisant, on arrive à améliorer les choses en appliquant des programmes qu'on pouvait pas forcément avoir premièrement. Et je pense que c'est cette évolutivité, cette capacité d'adaptation chemin faisant qui manque peut-être justement dans des gros programmes hyper lourds comme ceux de la rénovation urbaine, etc., où finalement on décide quelque chose qu'on appliquera dans 15 ans avec très peu de possibilités d'adaptation.
Après, vous m'autorisez. Non. Après, oui. Paul, ce qui se passe, c'est que, comme l'évoquait en filigrane Dominique, on a une administration la plus performante et la plus productive au monde, franchement, avec des compétences exceptionnelles. Sauf que on a une méthode qui est totalement archaïque parce que silotée. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a un appauvrissement de la vision politique du personnel politique. Et dès qu'ils viennent en responsabilité, il y a souvent une espèce de complexe d'infériorité par rapport à l'administration, parce que parfois les élus n'ont pas forcément une formation académique qui font que, au-delà de l'argument d'autorité de « je suis élu », ils peuvent dire « j'ai la compétence pour ». Et du coup, ils se font bouffer par une vision ultra-administrative qui, historiquement, a toujours été silotée, phagocytée, et puis surtout manque d'appétence au risque et à l'innovation.
Exactement.
On le fait pas parce que ça a toujours été comme ça. Moi, je viens de la tech. La tech, si vous innovez pas, et si vous investissez pas en recherche et développement, et si vous entourez pas des meilleurs, vous disparaissez.
Parce que nous, les urbanistes, vous faisons croire à vous, les politiques, que l'urbanisme est une technique, et donc il y a une bonne et une mauvaise réponse, alors que je pense qu'effectivement l'urbanisme est plus une vision politique.
C'est ce que j'ai tout le temps, c'est préface, malheureusement on va pas la prendre comme chanson, mais de préface de Léo Ferré, ceux qui comptent leurs pieds avec leurs mains, ce sont pas des poètes, ce sont des dactylographes, et les urbanistes, ce sont des poètes, les politiques, des poètes. Et ensuite, la mise en œuvre, c'est de la dactylographie. Mais ça, c'est facile, ça. Ça, c'est de la technique. On s'en fout de la technique. D'ailleurs, c'est la vision. Quelle vision? Et c'est là où j'en veux à une partie des urbanistes des années 60, 70, 80, parce que c'est la technique qui a primé sur une volonté politique qui a manqué d'ambition, à savoir, on parque les gens, ils mangent, ils vont au travail, on leur met tout à côté, et on se dit pas, mais qu'est-ce qui va se passer au 21e siècle?
On va faire la pause musicale, et je voudrais dire, en fait, on va en reparler dans la deuxième partie, entre l'urbanisme du stock et celui du flux. Je crois que vous êtes du côté du flux, qui est une révolution culturelle, et nous allons en reparler tout à l'heure.
Et plutôt que Léo Ferré, nous allons écouter Hang Up de Madonna sur Cause Commune, et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de Ainsi va la ville.
Cause Commune, la voix des possibles. So slowly, slowly, time goes by. 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 So slowly, slowly, slowly. We'll be right back.
Nous sommes avec Karim Boimran, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, président de la Société des grands projets et vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci Karim, une petite question. La métropole, on a essayé de faire le Grand Paris, le réseau du Grand Paris Express s'installe et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Et pour autant, les 10 dernières années, ce qu'on peut noter, c'est que ça a été la montée des identités. Saint-Ouen en est une preuve vivante, on parle de Saint-Ouen, on l'associe plus tant que ça à pleine commune, les territoires ont eu tendance à disparaître un peu de notre univers. Les communes se sont au contraire beaucoup plus développées au sens de la conversation dans la presse, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire de l'avenir du Grand Paris?
Cette question, elle est aussi simple que hyper complexe. Vraiment hyper complexe parce que vous avez tout résumé. Il y a eu historiquement une volonté de revoir le territoire métropolitain avec les établissements publics territoriaux, avec les communautés d'agglomération. Et on a oublié, et c'est ce qu'on disait au début d'émission, l'élément central, les gens dans tout ça. Et qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi aujourd'hui les maires se sont imposés? Ils se sont imposés parce que à un moment où il y a une désaffection en termes de croyances dans les politiques, les premiers remparts, le premier ciment, le premier lien avec la citoyenneté, la République, la démocratie, ce sont les maires. Et c'est la raison pour laquelle l'identité des maires s'est manifestée de façon un peu plus forte. C'est quoi concrètement? C'est la gestion de l'espace et c'est la proximité. Et la proximité et l'espace, lorsque c'est externalisé à une structure supra ou autre, vous perdez de la crédibilité et surtout de la capacité pour les citoyennes et les citoyens à croire dans les politiques. Et quand moi j'ai un problème de nettoiement, de propreté, de gestion des espaces, d'éclairage, leur dire c'est pleine commune, c'est pas un monsieur pour eux. Ils vont voir le maire, ils en ont strictement rien à faire de pleine commune. Donc c'est pour ça que la notion de métropole, ça c'est des outils. Vous avez dit un mot qui est pour moi fondamental, l'identité. Et l'identité, elle est spécifique à une demande qui est comment on gère ma proximité et comment on gère mes espaces, mes aéroports et mes radios.
Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce grand écart entre d'un côté un besoin d'identité peut-être locale, etc. et d'un autre côté, quand même des territoires qui, au sein de la métropole, fonctionnent en interrelation les uns avec les autres. Je veux dire, Saint-Ouen-sur-Seine n'existe que... Enfin, pas uniquement, mais existe en grande partie parce que ça fait partie d'un ensemble plus vaste qui s'appelle la métropole du Grand Paris. Alors, comment faire pour penser cette intégration métropolitaine? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois, enfin, parce qu'à vous entendre, on aurait l'impression que vous revendiquez peut-être un retour à l'échelle communale, alors que si on veut exister dans le jeu même mondial, etc., il faut au contraire, j'ai l'impression davantage penser Paris comme une métropole et pas comme un amoncellement de communes.
Oui, c'est pour ça que j'avais dit oui et non. C'est-à-dire oui, mais tout dépend de ce que vous mettez dans les services. En termes de services de proximité, en termes de gestion des espaces, la métropole ou la superposition des structures ne va pas apporter une valeur ajoutée concrète pour améliorer la vie des gens, à l'exception d'une lenteur et un manque de réactivité. Quand vous avez un problème d'éclairage, quand vous avez un problème de poubelle, quand vous avez un problème de gestion de route parce qu'il y a un trou, parce qu'il y a une personne PMR qui peut pas circuler, la métropole, lui dire que c'est la métropole ou lui dire que c'est pleine commune, il n'a strictement rien à faire. Oui, eux, ce qu'ils veulent, c'est une réactivité. Ils vont voir le maire. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que on n'est pas dans une accumulation de territoires fermés qui considéraient que l'expression des besoins se limite à l'aune des frontières.
Parce que le métro du Grand Paris Express, finalement, voilà, et ça améliore réellement la vie des gens, et ce n'est imaginable qu'à l'échelle de la métropole.
Bien sûr, mais là il s'agit... Alors justement, là c'est les transports, ce sont les transports, ce sont aussi les enseignements supérieurs. Là par exemple, une ville comme Clichy, je suis en train de travailler avec eux, c'est une ville mitoyenne avec moi, navette fluviale, on travaille avec Clichy, on travaille avec Villeneuve, on travaille avec l'Île-Saint-Denis, on travaille avec Saint-Denis, et là la frontière territoriale institutionnalisée, il y a plusieurs départements, on s'en fiche, parce que là on regarde le besoin. Le besoin de la population de Saint-Ouen à 10-15%, c'est je me lève et je vais à la Défense et je m'en fiche que je dois passer 93-92. Ce que je veux, c'est un moyen de transport le plus rapide possible.
C'est ça.
Et la navette fluviale, il s'avère que la Seine traverse plusieurs départements. Donc comment je travaille avec Clichy? Cet après-midi, on a une réunion avec le maire de Clichy. On a créé le premier premier équipement scolaire intercommunal, interdépartemental et interacadémique.
Bravo.
Et pourquoi? Parce que là aussi, c'est le bon sens. Je suis arrivé, on nous a dit là, il y a une friche, on a besoin d'une école. Ok, et à côté, il y a Clichy. Ah, mais on pouvait pas le faire, monsieur le maire. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été fait. J'en ai strictement rien à faire. Je suis allé voir le maire de Clichy. Je lui dis, on a un besoin d'équipement scolaire. On le fait ensemble, on mutualise. Vous, l'équipement scolaire sera à Clichy. Vous me prenez un tiers d'enfants de ma ville. Et moi, pour optimiser, je fais un conservatoire et je pourrais prendre la moitié de... Ah, donc là, la barrière territoriale ne se fait pas sentir. Donc, mais... En termes, j'insiste, hein, mais en gros, pour schématiser, la métropole et les grosses structures, c'est transport, université, fiscalité, entreprise. Donc là, pour pas qu'il y ait un espèce de dumping ou ce qui renvoie à l'emploi, la formation.
Exactement.
Donc ces volets-là. Le reste, école, petite enfance, infrastructure sportive, équipement culturel... Service de proximité, maire.
Ça se gère les maires et...
Les maires.
Et voilà. Et vous, c'est marrant parce que vous avez cité tous vos voisins, sauf le plus gros d'entre eux, Paris. Quelle relation... Est-ce qu'il est possible d'entretenir une relation avec la ville de Paris, cette espèce d'arrondissement central du Grand Paris qu'on a là?
Évidemment. Paris, c'est cinq portes. Paris, c'est cinq portes de Paris. Moi, je suis mitoyen avec cinq portes de Paris, Saint-Ouen. Nous, on travaille bien. Après, c'est toujours le même problème. C'est une question de personne. Parce que vous vous rendez compte, allez expliquer à Madame Alba, Monsieur Citron, citoyen, Monsieur le maire. Alors attendez, là, c'est pleine commune. Là, c'est la mairie de Paris. Mais la mairie de Paris, c'est l'arrondissement. C'est Paris 18e. Et à l'époque, ah oui, mais attendez, mais Paris 18e, c'est socialiste. Mais imaginons qu'à l'époque de Thibéry, ah oui, mais c'est une mairie d'arrondissement parce que le central, c'est pas la même couleur politique. D'accord. Mais moi, je veux passer jusqu'à Pleyel. Ah, d'accord. Donc, la ville est communiste, mais maintenant, elle est passée UDI et l'autre, elle est PC. Ok, elle départ. Le département est communiste, mais c'est une départementale. Là, c'est pas une départementale, c'est une nationale. C'est n'importe quoi, ça. Non, mais comment voulez-vous? Non, mais les gens deviennent dingues.
D'où l'idée d'une intégration métropolitaine, justement. Enfin,
l'idée de clarifier les responsabilités en fonction du besoin et en fonction de façon simple. Là, c'est trop superposé, il y a un milliard d'échelons.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est peut-être plutôt de clarifier les rôles, au sens où ce que vous dites, c'est que les maires sont les mieux placés pour développer les projets, donc ce qu'on appelle un urbanisme de flux? Qui est quand même plus complexe à mettre en œuvre et ce que vous faites à Saint-Ouen que des projets de mètres carrés, parce qu'en fin de compte, un mètre carré, ce qui est pratique, c'est qu'il est localisé. Par contre, notre sujet aujourd'hui, c'est de les rendre utiles, les mètres carrés. Comme on dit, il y a surface plus utile, cher à Paul Citron, ça parle de ça. Le fait on arrête le gaspillage immobilier, enfin, ce sont des choses importantes.
Tout à fait.
Et tout ce que vous citez, toutes ces espèces de limites administratives qui sont liées à tous ces échelons, est-ce que le système métropolitain pourrait pas être celui qui s'occupe justement de gérer la limite, d'enlever ces limites administratives en fonction des projets portés par les élus?
Et parce que vous avez une vision d'urbaniste hyper politique avec une vraie vision. Vous avez compris que c'est un perpétuel mouvement.
Il faut que ce soit un perpétuel mouvement.
Non mais vous avez compris ça. Et moi, j'ai compris ça en tant que politique avec cette vision du mouvement, le 21e siècle. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Mais je vous assure, déjà le trois quarts des urbanistes, je parle sous votre contrôle, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui souvent ont été formés par des hommes qui, eux, viennent d'une génération des années 50, lendemain de la guerre, où on bétonne, on fait de la concentration, ou versus étalement, et derrière, on part du principe que les autres paramètres qui doivent se greffer, c'est-à-dire le socioculturel, le culturel, l'économique, l'écologique, les enjeux environnementaux, les flux migratoires, l'évolution, le rapport avec le travail, le rapport avec le loisir, ça évolue tout ça. Ben non, eux, ils sont restés figés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, je leur ai dit, attendez, mais ma ville a fait 4,3 km². J'ai 40% de la population qui a moins de 30 ans. Merci. J'ai ligne 14, ligne 15, ligne 16, ligne 17 à 200 mètres dans une ville qui est pas la mienne, mais qui est à côté, Pleyel. Je suis plus du tout dans le même Big Bang. Ça va complètement changer de paradigme. Je vais continuer à avoir le même cercle de réflexion stock que mes prédécesseurs communistes dans les années 70 avaient. C'est fini, ça.
Alors, qu'est-ce qu'il faut changer concrètement?
Déjà les politiques. Déjà la vision.
Et pour avoir cette réflexion flux, puisque c'est ce que vous venez de dire.
Il faut qu'il y ait des gens comme nous autour de la table.
C'est, pleine c'est commune, des gens comme nous. Avec Hanotin, avec Mathieu Hanotin, pleine commune, avec. Mais ça peut être aussi. Et c'est l'intérêt dans votre rôle, je pense, on n'a pas beaucoup parlé du réseau du Grand Paris Express, il faut peut-être en parler un tout petit peu, puisque vous êtes quand même président du conseil de surveillance. C'est une discussion éternelle où des gens disent il faut faire la mixité emploi-logement. Le Saint-Ouen est quasi parfaite, 1-1. Il est clair qu'on ne va pas prendre une tour de la Défense et l'installer à Clichy-Montfermeil, par exemple.
Non, ils n'iront pas.
Oui, et puis ça n'a pas de sens. Par contre, par le biais du réseau du Grand Paris Express, les habitants de Clichy-Montfermeil ont maintenant accès à un bassin d'emploi multiplié par 150%. Donc, comment vous imaginez que vous puissiez discuter, échanger avec vos homologues? Est-ce que le système métropolitain tel qu'il était dessiné dans le cadre de la loi correspond à ce que vous souhaitez, ou est-ce qu'il est trop académique à l'ancienne, je dirais, vous citez la ville de l'après-guerre, la constitution de l'après-guerre avec le poids donné aux communes. Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer? Est-ce que vous auriez des pistes là-dedans?
Ouais, j'ai coupé. Le Grand Paris Express est pour le coup révolutionnaire. C'est pour ça qu'on a été récompensé à Harvard il y a 2 ans avec Veronica Rudge, où on substitue la vision des radiales aux rocades. Et ça, c'est un big bang. C'est qu'on arrête d'avoir une vision ultra jacobine, centralisatrice, et on se dit, les transports peuvent être susceptibles de faire en sorte que chaque territoire peut être l'architecte de sa propre vie au quotidien. Mmh. Donc, des transports façonnent l'offre du service public, l'emploi, l'attractivité, l'offre culturelle, on le voit... avec l'inauguration de la ligne 14, comment la santé, l'offre de santé va être considérablement améliorée avec Gustave Roussy. Bon, c'est des exemples très concrets. Donc, sur cette question-là, l'évolution métropolitaine refait un rééquilibrage entre les territoires dits servants et les territoires périphériques qui sont traités d'égal à égal en termes de qualité de service public. Là où je serais non pas provocateur mais froidement réaliste, il faut que les responsables politiques dits des quartiers populaires ne sortent plus dans une politique de victimisation politicienne en se targuant d'être systématiquement le département le plus pauvre ou la ville la plus pauvre pour attirer les spotlights des médias et des subventions, mais dire voilà mon ambition, c'est d'être un des plus riches. Et la richesse, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait plus de services publics, plus d'actions culturelles, des logements de qualité, répondre aux enjeux thermiques, avoir un espace de vie beau, un espace de beau végétalisé, et pas de se dire... parce que là aussi, faut se dire les choses. Vous avez une partie des élus qui se disent de gauche, qui sont rentrés dans un espèce d'intérêt d'entretenir cette pauvreté endémique subventionnée, et éviter, sous prétexte de « Ah, attention, je veux pas de boboisation, je veux pas de gentrification », de concentrer la pauvreté. Et du coup, ça a tiré le département vers le bas. Moi, je me suis battu quand je suis arrivé vice-président du département. Je leur ai dit « Écoutez, est-ce qu'on peut avoir un accord de Yalta sémantique, politique et de développement de langage, tous hein, gauche-droite, arrêtez de dire que le département de Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France. Comment voulez-vous qu'un gamin ou une gamine se projette positivement? Lorsqu'il arrive, il rentre chez lui le soir et on lui dit « punaise, je viens du département le plus pauvre de France ». Non, tu viens du plus jeune et de celui qui tend à être le plus riche.
Et en
c'est
même temps,
pareil.
Karim Mouawane, il y a aussi des réalités. Par exemple, le fait que lorsqu'on passe le périphérique en allant de Paris vers la Seine-Saint-Denis, on perd 10 ans d'espérance de vie.
Oui, mais bien sûr, donc, c'est le problème de service public, c'est le problème d'accès à la santé, c'est le problème de qualité de logement, c'est le problème des passoires thermiques, c'est le problème de 80% des maladies, des cancers, lorsque elles sont détectées à temps, elles sont prévenues, peuvent être bien soignées, c'est le problème de la prévention, c'est le problème de l'échec scolaire, c'est le problème des familles monoparentales pauvres, c'est le problème des discriminations territoriales, bien sûr, mais on peut en parler pendant des heures.
Bien sûr.
Le périph est une frontière pas que matérielle.
Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour peut-être abattre cette frontière symbolique, et comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer, pour redistribuer, pour faire en sorte que le...
Il faut que des gens comme moi soient en responsabilité, plus. C'est aussi simple que ça. Mais pas moi, parce que je suis un mec exceptionnel. Mais on est beaucoup à avoir des visions comme la mienne. Et qu'on arrête de mettre, d'opposer les gens. Voilà, faut qu'il y ait des personnes comme vous qui prennent le pouvoir et qui soient pas perçues comme des personnes qui sont disruptives parce que ils sont disruptifs, mais parce que on porte véritablement une vision alternative pour un monde meilleur. Et l'urba, c'est pas un outil technique, c'est de la politique, parce que vous contribuez à gérer et à améliorer la vie des gens. Voilà, c'est ça un urbaniste. C'est pas quelqu'un qui vient, qui se fait plaisir en disant tiens, il y a un bâtiment signal ou avec des expressions qui sont top à répéter dans les dîners mondains. C'est voilà, on améliore la vie des gens, et c'est pour ça que ce qui a été fait avec le Grand Paris Express, c'est un projet où le beau, où la vision est pour le coup hyper ambitieuse, et ça se voit.
C'est vrai que c'est un vrai levier, et je crois que c'est important ce que vous avez dit. On passe d'un système en radial à un système en rocade, et ce que je comprends, je vais le résumer avec mes mots et on fera la pause, c'est d'en fait de faire en sorte qu'on ouvre les territoires à cette possibilité qui va en fait s'installer, et de ne pas les fermer a priori avec nos archétypes, tous, autant que nous sommes, quelle que soit la position qu'on occupe. En fait, ce que vous dites, c'est il y a de la liberté qui arrive, il y a du plaisir qui arrive, il y a du progrès partagé. Bah, prenons-le avec les deux mots que vous dites, progrès et partage.
Et il y a aussi beaucoup d'amour et beaucoup de jalousie, comme dans la chanson d'Oxmo Puccino que nous allons écouter.
Cause commune.
Les gens ne s'aiment plus, tu feras pas croire ça. En vrai, les âmes sont noires si chaque fois ça foire. Car au fond, tous cherchent quelque chose. Les filles, les poches, c'est plus lest et de fric. Baiser avec le best, souvent celle pour lesquelles tous les potes se frottent. Étrange comme les potes, change quand tu coupes du flou. Se bande sur ta fouf, tout en demandant comment tu vas. Je pense qu'avec le flou, tu changes que de soucis. Tous veulent le nier. Mais les amis, devant la monnaie, deviennent des animaux. La famille, un jeu de qui strike à chaque shoot. Suffit d'une bille de 5 lettres ou NVIE. La jalousie suinte sur le front de ceux qui sont les moins loin de toi. Et même censé avoir le cran de prendre soin de toi, tu vois. Un des frères moins aimés, cléné par sa mère. Dès l'enfance commence la sale guerre. Les frères grandissent, la plaie reste ouverte et pleine de haine. Les liens se pourrissent et se poursuivent jusqu'aux enfants.
Depuis
et
la nuit des temps, Stan Chance donne la mort ici à Kingston. Une cause,
amoureux, jalousie.
Ils veulent être qui je suis, peut-être ce que j'ai. Même mon insuccès, mec, c'est
amoureux, jalousie.
J'arrive pas à vivre, pourtant mon cerveau à niveau, ils veulent privé de ma vie.
Amour et jalousie.
Noir et noir, moi ou toi? Pourquoi toi, pas moi? Pourquoi moi, pas toi? Voilà.
Amour et jalousie.
Moi-même j'étais jaloux jadis. Je jouais tout ce que j'avais pas jusqu'à ce que maman dise: fils, patience, t'arrives.
Et elle arrive.
On la voit tous, on veut y arriver.
Et ton rêve
n'est pas le leur, surveille ses navets qui te suivent jusqu'à ce que tu sois trop loin d'eux. Puis coule ton navire, ainsi va la vie. Vu qu'un nantique qui subit sort, jette la faute sur celui qui s'en sort. Son unique but, jouer les justiciers. Ils veulent ce que t'as de valeur, le gueule pas toujours. Alors un poste, un manteau, un sac à main devient un testament. Road, mort, d'homme lord et love d'imposteur. Tous la même cause. La procession, ce grand processeur. Beaucoup de fric dans le texte. Vu que ce que les gens t'envient est acquis grâce au fric. Ce que je dis, je déteste. Mais mon temps est compté. J'ai pas le temps d'envier. Car envier, c'est du temps. Et le temps n'est qu'un tas de billets. Depuis la nuit des temps, Stan Chance donne la mort ici à Kingston. Une cause,
amour et jalousie.
Ils veulent être qui je suis, peut-être ce que j'ai. Même mon insuccès, mec, c'est
amour et jalousie.
J'arrive pas à vivre, pourtant mon cerveau à niveau. Ils veulent me priver de ma vie.
Amour et jalousie.
Noir et noir, moi ou toi? Pourquoi toi, pas moi? Pourquoi moi, pas toi? Voilà.
Amour et jalousie.
Beaucoup de groupes de rap, rock restent rarement unis. Question de chiffres, inégo, groupe you, groupie, Lévis, loop. Vu que tout ce qui tourne touche au fric, putain. Rajoute dis mon teint et dis si je mens, hein. Premier prix de jalousie, ce que rien. Les chiens se bouffent, fichent la paix aux riches. Et piège à niche du voisin. Un peuple appauvris-tu, à coup de gris-gris, ainsi Dieu trie. Prends les bons et laisse les maudits entre eux. Tout a l'air d'un complot, j'ai moins en moins de potes. Squat mon coin en moquant faussement de mes liens passés. Je lève mon verre à mes ex-amis, mes futurs ex-amis. Ceux qui ne seront jamais trop de fautes commises. J'aurais pu appeler ce rap bonheur ou malheur, trap meilleur. Mais je mélange et je vous donne amour et jalousie.
On dit jalousie, jalousie. Envie du voisin. On dit jalousie, jalousie. Envie du voisin. On dit jalousie, jalousie. Envie du voisin. Envie, jalousie, jalousie.
De retour sur le plateau de Ainsi va la ville. On était pris, emporté dans la discussion avec Karim Bouamren et Dominique Alba. Dominique, à toi.
Alors, notre dernière partie, on va peut-être changer un peu d'échelle, hein, puisque on vous a beaucoup vu sur les ondes récemment et beaucoup entendu très récemment. Vous avez pris une place dans l'actualité avec la reprise par les sénateurs de la méthode Saint-Ouen sur le sujet sécurité. Et je crois que c'est un sujet d'actualité.
Ouais.
Donc, quelle place prend la sécurité dans la gestion d'une ville? C'est un sujet glissant. On n'a pas parlé de communautarisme, mais tout le monde a aussi ce sujet-là en tête. On parlera de la drogue, qui est un sujet lié aussi. Vous partagez 5 portes avec Paris, mais parmi ces portes, vous partagez aussi les portes de la drogue. Et pas seulement. Karim Bouamran.
On partageait les portes de la drogue parce qu'on a réussi à régler le problème en 5 ans grâce à une méthode qui, à 90%, on a éradiqué le sujet du narcotrafic et j'ai eu l'opportunité de débattre avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, la semaine dernière, il y a quelques semaines, et j'ai eu l'occasion de lui dire, la méthode Saint-Ouen fonctionne, elle a été vantée par les sénateurs, il faut la mettre en place partout en France. Ça montre quoi? Ça montre que oui, c'est possible. C'est possible quand on arrive. C'est quoi la méthode Saint-Ouen?
Oui, c'est, en deux mots, qu'est-ce que c'est?
C'est mettre l'objectif, améliorer la vie des gens, se réapproprier l'espace public. La puissance publique, c'est elle qui est puissante. C'est pas la puissance privée, c'est la puissance publique, les biens publics, l'espace public appartient au public. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On a été les lieux, les conséquences du trafic de drogue, c'était la privatisation des espaces privés, des espaces publics. Moi, je suis pas ministre de l'Intérieur, je suis maire. Donc mon job, c'est de faire en sorte que, un, tous les actrices et les acteurs susceptibles d'apporter une réponse au deal se mettent autour de la table. On a cassé la méthode du silo. J'ai mis autour de la table la justice, Beauvau, les bailleurs, les associations de parents d'élèves, les associations de quartiers, les élus, et chacun avait la commissaire que je vois chaque semaine, et chacun avait un rôle précis sur un lieu précis, avec une méthode précise, sachant que quand vous mutualisez les informations, j'ai, moi de mon côté, pris ma quote-part, à savoir, je suis passé de 7 personnes policiers municipaux à 30 policiers municipaux, 500 caméras dans le public, 500 caméras dans les bailleurs, et surtout, ce qui est important, c'est que lorsque vous démantelez un point de deal, ce qui est important, c'est le jour d'après. Et le jour d'après, c'est l'aménagement. Et c'est là où les urbanismes jouent un rôle extrêmement important. C'est comment tout de suite on arrive à donner, vous l'avez évoqué, Dominique, en filigrane dans votre intervention préalable, c'était comment on redonne de l'espoir, comment on redonne de l'espérance. Et l'espoir et l'espérance, et votre vie s'améliore. C'est que vous savez quoi? Hier, il y avait un point de deal. Le lendemain, il y a une intervention. Le surlendemain, il y a des grues, ou il y a des travaux, ou il y a une fresque, ou il y a de l'art. C'est pour ça que l'art dans la ville, le changement de paradigme, la mutualisation des moyens, une volonté politique et surtout ne pas sombrer dans la fatalité. Et tous mes prédécesseurs avaient sombré dans la fatalité en disant c'est comme ça, soit en disant c'est l'État, je peux rien faire, soit en disant le maire ne peut rien faire.
Mais alors, donc les points de drogue, les points de vente de drogue dans la ville, donc c'est une activité illégale, ça génère de la violence, comme souvent les pratiques illégales, mais d'un autre côté, ça fait vivre aussi beaucoup de monde. Il y a des enjeux sociaux, économiques derrière ça, et c'est un sujet hyper sensible à beaucoup d'égards, mais certains appellent à la dépénalisation, voire à la légalisation du cannabis, par exemple, et en insistant justement sur les implications socio-économiques de cette drogue, une drogue douce, si on entend ceux qui la défendent, et qui pourrait finalement être une sorte de relais aussi de croissance économique et d'activité. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions?
Pendant longtemps, j'étais dans une logique de légalisation en partant du principe qu'il pouvait y avoir un meilleur contrôle, un prélèvement à la source et donc des entrées fiscales et surtout endiguer la violence. Et en vieillissant,
des vrais emplois, des retraites.
Voilà. Mais en vieillissant, j'en suis revenu à cause de deux, trois points. Le premier, c'est que la puissance publique a toujours vécu avec des drogues. Et la question, c'est comment on hiérarchise des drogues et qu'est-ce qu'on entend par drogue douce et drogue dure. Est-ce qu'aujourd'hui, on est tous égaux face au cannabis? Je ne pense pas. J'ai vu des ravages terribles sur le plan neurologique pour toute une partie de la population qui consommait du cannabis. Donc, C'est pour ça que sur les conséquences sanitaires, et les spécialistes se sont exprimés là-dessus, ont écrit là-dessus, je suis un peu plus réservé. Deuxième point, est-ce qu'il va pas y avoir un glissement entre les drogues qui seraient plus comment dire plus lucratives sur le plan pécuniaire, donc ça déplacerait le problème. Et troisième élément, en termes de d'éthique, en termes de déontologie, légaliser type de drogue, est-ce que la puissance publique pourrait le faire, ou est-ce que ça serait une hypocrisie de pas le faire? Dans toute humilité, j'ai plus d'avis arrêté comme je pouvais l'avoir avant. C'est tellement compliqué. L'arsenal juridique, est-ce qu'il suit aussi? Derrière, vous l'avez évoqué, les familles, ça fait vivre certaines familles, mais les familles, elles sont pas fières de se dire, je vis d'un commerce illicite. Elles aimeraient bien avoir une droit de cité sur le plan de la légalité.
D'où l'idée d'une légalisation. Il y a des familles de cafetiers, et c'était ma question suivante. Passons à une autre drogue, légale celle-ci, l'alcool. Les bars en Seine-Saint-Denis, et donc à Saint-Ouen, ferment à minuit, alors que les bars parisiens ferment à 2h du matin. Ça fait des années, je crois que ça fait depuis les émeutes de 2006. Pourquoi cette inégalité en termes de temps de la ville? Et est-ce que ça pourrait faire partie d'un projet, en vue des prochaines municipales, de demander au préfet de Seine-Saint-Denis de revenir à une ouverture plus tardive? Parce que finalement, moi qui habite en Seine-Saint-Denis, et pour tous mes amis pareil, bah finalement on trouve ça hyper injuste de pas pouvoir sortir comme les Parisiens jusqu'à 2h du matin.
Non, vous avez raison. La fête est un élément important dans le lien social. Aujourd'hui, lorsque vous parlez d'une ville équilibrée sur le plan sociologique, qu'est-ce qui permet les véhicules, les canaux, les endroits où on peut se retrouver, échanger, se retrouver? C'est la fête, c'est la culture et c'est le sport, c'est et l'école quand on est parent d'élève. Mais quand on n'est pas parent d'élève, c'est la culture, le sport et la fête. Ce sont les endroits qui vous donnent la possibilité de partager des émotions, d'écrire un récit collectif et pour le coup de faire cause commune. Et nous, lorsqu'il y a des demandes à 1h du matin, généralement on accepte, on fait des arrêtés. Le sujet après c'est alcool, pas alcool, et gérer les questions de voisinage. Mais effectivement, vous avez raison, on peut pas dire en banlieue Seine-Saint-Denis c'est minuit et à Paris pour faire la fête c'est 2h. En plus moi j'aime pas quand on n'est pas les meilleurs, faut qu'on soit les meilleurs dans tout. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé le congé menstruel, c'est pour ça qu'on a été toujours les premiers là.
On allait justement évoquer on va pas lister tout ce que vous avez fait, toutes les actions que vous menez, mais j'aurais quand même en mentionner une qui est, vous avez lancé au Stade Bauer, donc qui est quand même un stade mythique.
Non, mythique, quoi.
Le Red Star, c'est un des premiers clubs de sport. Je crois que je sais pas si à Saint-Ouen, il y a des ondes telluriques pour qu'il y ait des choses mythiques comme ça qui s'installent et qui perdurent, mais ça vaudrait peut-être le coup de regarder. Et donc, vous avez lancé un mouvement pour vous positionner au niveau national, ou en tout cas pour parler, pour porter une parole qui s'appelle la France humaine et forte. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et comment ça s'articule, je dirais, avec ce que vous menez localement à Saint-Ouen? Comme laboratoire peut-être, ouais, Saint-Ouen est-elle un laboratoire?
Ouais, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait à Saint-Ouen, on arrivait à concilier des personnes qui ont pu faire tout ce qu'ils avaient pu faire grâce à la République, avec deux éléments, c'était l'humanisme et la puissance publique. Et dans humanisme et puissance publique, c'est une France humaine et une France forte. Et on a lancé ce mouvement parce qu'on voulait rassembler toutes celles et ceux qu'on aimait, toutes celles et ceux qui avaient envie d'avoir envie, comme dirait l'autre, et quelle que soit son origine sociale, son orientation sexuelle, sa couleur de peau, sa croyance, c'est l'amour de la République et l'amour de se dire si on est là, c'est parce que si notre vie s'est améliorée, c'est parce qu'on avait une puissance publique forte. Et ça, c'est souvent un projet de gauche responsable, et la gauche les a perdus, nous a perdus, même si je suis responsable politique, maire, et je pense qu'un parti comme le mien, le Parti Socialiste, je pense que la formation politique, la famille politique qui est la mienne, la gauche, doit avoir des mouvements comme la France humaine est forte pour pouvoir espérer jouer un rôle en 2027 et revenir en responsabilité. Donc c'est pour ça que c'est pour jouer un rôle en 2027 dans les présidentielles, en ayant une approche qui part du terrain, bottom up, qu'on a lancé ce mouvement. Et c'est pas pour rien qu'on était 4000. On a lancé le mouvement, on était 4000. Et ce qui était intéressant, et vous interrogerez tous ceux qui y étaient, c'est les profils des personnes. C'est des noirs, des arabes, des homos, des hétéros, des riches, des pauvres, des mamans, des papas, des célibataires, des mariés, des immigrés, des Français depuis 25 générations, des gens du 93, des gens du 92, des gens de partout. Et c'est ça la force. Et c'est ça la puissance de la France. C'est pour ça que je suis un éternel optimiste et je pense que, comme dirait NTM, le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains. Vous êtes le Saint-Denis, donc vous avez la ref. Alors écoute ce refrain.
Vous êtes projeté en 2027. Ainsi va la ville, c'est plutôt de permettre à des personnes comme vous et d'autres de s'exprimer pour 2026, qui est une échéance électorale, ouais, je dirais, plus proche. Et on voit bien que le monde dans lequel nous rentrons, le monde des réseaux sociaux, le monde du Grand Paris Express, va changer la donne pour ces prochaines élections, pour la constitution des programmes. Et c'est le but de cette émission. Et donc, on a une question importante que l'on pose à tous nos invités, qui est qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire dans la ville aujourd'hui ou dans la ville d'aujourd'hui, vous choisissez.
Sur le plan politique pur, gouverner sans vision et attendre que les actions façonnent la vision, c'est ce qui fait que on se comporte comme un dactylographe et pas comme un responsable politique. Et ce qu'on devrait faire, c'est se poser tous les jours la question pourquoi je suis ici, et je suis ici pour améliorer la vie des gens en fonction de ma vision. Et aujourd'hui, et c'est pas du tout des principes balises, c'est la réalité. C'est moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, comment derrière. Est-ce que derrière, tu te dis, c'est les élections municipales. Le municipal, c'est le local, c'est la proximité. La proximité, c'est que tes patrons, ce sont les gens. Si tu crois que t'es le patron, tu te trompes. Tu es le patron dont les patrons sont les gens, et les gens, ils t'ont donné un mandat pendant 6 ans. C'est ta ville, mais tu n'as rien. Tu ne t'es propriétaire de rien. T'es simplement propriétaire pendant 6 ans. D'un mandat pour répondre à ce sur quoi tu t'étais engagé. Et donc c'est dire, voilà ce que j'ai fait, je fais ce que je dis ce que je fais, et c'est ça la crédibilité au niveau de la politique. Et quand on se trompe, on dit, vous savez quoi, je me suis trompé. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je leur conseille de faire.
Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Karim Bouamran.
C'était cool, merci.
D'être venu nous parler de votre rapport à la ville. Merci Dominique de ta présence. Merci à Olivier Gréco d'avoir assuré la régie de cette émission.
Merci Olivier. La technique, c'est Olivier.
À bientôt à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Ainsi va la ville sur Cause Commune 93.1 FM.
Top, merci.